Bon, ce que j'aimerais vous parler de la constitution de l'imaginaire américain, un sujet qui m'intéresse, sur lequel je travaille depuis quelque temps, c'est un sujet que, surtout avec le retard que j'ai pris, dont je ne ferai pas le tour. J'aimerais vous indiquer des pistes de la genèse et de la formation progressive de ce que j'appellerais une mythologie américaine. Et qui me paraît très intéressante parce qu'elle démarre à peu près à l'arrivée des Hollandais aux États-Unis pour prendre une forme pratiquement accomplie avec les parcs d'attractions du début du XXe siècle qui donneront lieu eux-mêmes à Walt Disney. Bon. Alors, il y a trois grandes tendances dans la création de l'imaginaire américain. Que j'appellerais l'activité technique, la deuxième c'est l'activité morale, et la troisième c'est l'activité théorique. Alors, la première origine de l'imaginaire américain, de la constitution d'une mythologie américaine, c'est pour prendre quelques dates, avec l'arrivée en 1626 dans la baie de Manhattan des Hollandais. Et donc notamment de Peter Minuit, qui va acheter Manhattan aux Indiens, qui va d'ailleurs acheter Manhattan à la tribu qui n'est pas native du coin. C'est très amusant parce qu'il y a un malentendu, c'est qu'en fait Manhattan n'a jamais été acheté, puisque c'était une tribu qui passait par là et qui avait empoché le peu d'argent. Il a acheté Manhattan pour 24 dollars. L'équivalent de 24 dollars. Mais déjà, donc, ce qui est amusant, c'est que l'origine même de l'Amérique WASP repose sur un malentendu, sur une tromperie. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est les lieux qui ont été achetés, puisque quand les Hollandais arrivent, cette partie de l'Amérique est occupée par les Mohicans et les îles qui vont être achetées sont toutes des îles qui ont une très grande valeur symbolique. Ce sont toutes des terres sacrées. Et notamment une île qui va devenir Coney Island, l'île des Lièvres, qui s'appelle Narrioc. Et Narrioc, dans la culture des Mohicans, le mot Narrioc signifie le lieu sans ombre. Et le lieu sans ombre, c'est l'équivalent, pour aller vite, hein, même si ce n'est pas exactement ça, des enfers pour les Mohicans. Donc c'est un lieu tellement noir qu'on n'y voit même pas des ombres. C'est le lieu sans ombre. Bon. Plus tard, l'île sera appelée Coney Island, l'île des Lièvres, qui est liée aussi à une mythologie iroquoise, Mohican. Qui est que le lièvre va entraîner avec le renard la rupture du lien qui unissait les êtres humains avec tous les autres animaux, c'est la perte du langage universel, etc. Donc, par pur accident, les Hollandais débarquent dans un lieu qui est extrêmement chargé d'histoire, de mythologie, etc. Bon. Souvenez-vous par la suite que c'est à Coney Island, dans ce fameux Narrioc, que seront construits les parcs d'attractions Dreamland, Lilliputia, la cité des petits, la cité des nains, le Luna Park sera construit aussi. Et c'est dans ce lieu-ci, on y reviendra. Bon, donc les colons débarquent, etc. Et très rapidement, ils vont se rendre compte que. Il va falloir obéir aux premières nécessités qui sont l'alimentation, la protection, la sécurité. Et donc, ça va générer de leur part ce que j'appelle l'activité technique, c'est-à-dire pour les premiers colons, la nécessité de répondre à des obligations qui leur sont imposées. Donc, ils sont dans un premier temps, il n'y a pas de place à l'imaginaire, il y a très peu de place pour la distraction, etc. Quand on connaît l'existence de la nourriture, ça tombe très bien. C'est-à-dire qu'ils ont failli mourir de faim, ce sont les Indiens qui leur auraient apporté la culture du maïs, les dindes pour manger, etc. Ça tombe très bien, c'est un petit vol, c'est aujourd'hui. Donc au départ, il est très peu question d'invention, de mythologie, etc. Et pourtant, l'une des données les plus importantes dans la constitution de l'imaginaire est déjà là, puisque les premiers colons sont au contact du sublime, la notion de sublime. Alors, un philosophe écossais qui s'appelle Burke a écrit au XVIIIe siècle un ouvrage qui s'appelle « Considérations sur les idées du beau et du sublime », qui va être très important dans l'histoire de l'art. J'aimerais tout un pan d'histoire de l'art. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet ouvrage, Burke définit le sublime selon un sens qui nous est assez étranger. En général, quand on parle de sublime, on pense que est sublime ce qui est très beau, ce qui est excessivement beau, c'est sublime. Ou alors ce qui est particulièrement moral, telle attitude va être qualifiée de sublime. Or, contre toute attente, Burke définit le sublime comme étant l'arrêt de l'esprit. Le sublime, c'est ce qui vous fige. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en contact avec une situation que rien ne vous préparait, pour laquelle rien ne vous préparait, ni votre éducation, ni votre instinct, ni quoi que ce soit, votre esprit est figé, il bug. C'est l'effet de sublime. Et ce n'est que dans un deuxième temps que l'esprit repart et cherche à improviser des solutions, y répondre, etc. Burke prend pour exemple ce qu'il appelle le sublime naturel, c'est par exemple le marin dans la tempête. Le marin, pourtant homme professionnel, va être écrasé par la beauté et en même temps les terrifiants de la tempête. Bon. Et en continuant, Burke dit que l'essence même, la pureté même du sublime réside dans la terreur. C'est très intéressant. Donc le terme sublime, à l'origine, est une réaction à la terreur. Bon. Nos colons débarquent et ils quittent un monde pour un monde qui ne connaissent rien, ils savent ce qu'ils quittent, mais ils ne savent pas ce qu'ils découvrent. Et là, ils vont vivre, il y a eu suffisamment de témoignages pour vous parler, l'expérience du sublime. Mais dans ce qu'elle a de plus terrifiant et dans ce qu'elle a de plus inquiétant, c'est-à-dire que ces colons se rendent compte de leur petitesse, par rapport à l'immensité du pays qu'ils découvrent, ils sont environnés par une nature, qui est sublime, qui est immense. L'océan d'un côté débarque sur la côte est, donc la forêt incroyable de l'autre. Et donc il faut imaginer que ces petites communautés de colons vivent dans une terreur continuelle. À quoi il faut ajouter la nécessité qui est sans cesse reconduite de jour en jour à trouver à manger, à s'abriter, etc. Bon. Ces conditions qui sont extrêmement difficiles à vivre vont engendrer la matrice, le ferment de ce qu'on va appeler les contes de Mamerlois, Tales of Mother Goose, qui sont des contes extrêmement âpres, extrêmement durs. Souvent hérité de l'imaginaire gallois, de l'imaginaire irlandais, de l'imaginaire écossais dans une deuxième vague d'immigration, et qui sont des contes qui reposent sur ce qu'on appelle le don et le contre-don. La nature nous donne, elle nous offre du maïs, par exemple, il y a beaucoup de contes autour du maïs. Elle nous offre des abris, etc. Mais il va falloir opérer un contre-don. Il va falloir donner en échange. Et vous avez beaucoup de récits fictifs, imaginaires, dans la première mouture des contes de Mamerlois, qui repose sur l'offrande sacrificielle d'un enfant. Pourquoi un enfant ? Pour plusieurs raisons. La première, parce que ce sont les premiers Américains natifs. On offre donc vraiment ce qui relève de la terre, en fait, ce qui vient de la terre, ce sont pas des gens d'ailleurs, on offre des enfants américains, et puis on offre tout simplement ce qui nous est le plus cher, nos propres enfants. Donc, beaucoup de contes de ma mère loi reposent sur ce don qui est vécu de manière absolument nécessaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de tristesse manifestée, il n'y a pas de chagrin, tout le monde vit ça comme une obligation. Et on pourrait s'interroger sur la valeur réelle de ces contes qui sont probablement pour une bonne part hérités de faits divers atroces. On sait combien il y a eu de cannibalisme dans les films comme le bon. Avec l'installation du puritanisme à Boston, les contes de ma mère loi vont prendre un tour très étonnant avec ce que j'appelle l'activité pratique ou l'activité morale. C'est-à-dire que, deuxième type, donc deuxième époque de l'imaginaire américain, de la naissance de l'imaginaire américain, c'est qu'une fois qu'on a répondu aux premières exigences, exigences de nourriture, de sécurité, on va pouvoir développer un imaginaire personnel, un imaginaire volontaire, un imaginaire qui n'est pas contraint par la nature, par le milieu, par l'environnement, mais ça va être un imaginaire assez particulier, puisqu'il va apparaître dans la Boston puritaine, la Boston des chasseurs de sorcières, la Boston de Cotton Mather. Alors, là, c'est passionnant. Cotton Mather est surnommé le chasseur de sorcières. C'est un révérend. C'est un extrêmement lettré. Alors, je vais vous donner une date. C'est aussi bien. Donc, aux alentours de... Ouais, c'est ça, de 1719. Vous voyez, 1719. Donc, Cotton Mather est un lettré, un calviniste pur, qui a une grande bibliothèque, qui est un spécialiste de la magie, qui condamne, hein, bien sûr, il a existé, un personnage réel. C'est un spécialiste de la magie, il la connaît bien, il la condamne, mais pour bien la condamner, il la connaît. Il est connu pour avoir une remarquée bibliothèque. Et Cotton Mather va être celui qui est à l'origine des premiers procès, des premières instructions en sorcellerie, la guerre de femmes, toujours, bien sûr. À la différence de la Suisse, contemporaine des événements, où beaucoup d'hommes et de garçons ont été brûlés, dans les communautés puritaines d'Amérique, sont des femmes qui sont des victimes des chasseurs de sorcières. C'est intéressant ça. Je n'ai pas d'explication, mais c'est comme ça. C'est vrai que les chasseurs de sorciers sont suisses, les chasseurs de sorcières sont bostoniens. Ils sont tous révélistes. Bon, et donc Cotton Mather va instruire les premiers procès. Il est à sa manière intègre, c'est-à-dire que ce sont de vrais procès. Ce ne sont pas des, vous voyez, des sacrifices ou des parodies. Ce sont de vrais procès. Il croit. Il va même prendre des risques personnels puisque il va condamner et exécuter les tous du gouvernement de la colonie. Les comptes des risques prend, hein. Ibins, voilà, Ibins. Il va la faire condamner, elle va être pendue, enterré, le corps couvert de ronces et avec une lance, de pieu qui traverse le corps et qui sort de la terre pour indiquer où est la sorcière. Donc on a affaire à quelqu'un de terrifiant, hein, bien sûr, mais d'intègre. C'est très important pour la suite. C'est quelqu'un qui croit ce qu'il fait. Bon. Et donc, Cotton Mather est l'autorité morale de Boston à l'époque. Boston qui est gouverné par ce qu'on appelle les lois bleues, et qui sont des lois qui dirigent toute la vie quotidienne des Bostoniens. Donc, bon, c'est très astreignant, hein, pas de jeu d'argent, pas de jeu de cartes, pas de jeu de dés, l'office continuellement. le dimanche, il faut suivre trois offices, etc. Bon, qui est un système de contrôle hein, communautaire qui est parfait, mais qui va générer, une fois qu'il est installé, des étranges poches de liberté. C'est-à-dire qu'une fois que la dictature puritaine est installée, il va se dégager un imaginaire qui est très étonnant. Et alors là, ça c'est des plaisirs de la recherche. Cotton Mather a pour ami un jeune marchand qui vient d'Angleterre sur un bateau qui s'appelle Man of the Moon. Dieu sait si la lune va être importante dans les contes de la Merlois. Donc un jeune homme qui arrive et qui va épouser une très jolie jeune femme de la communauté, qui se fait remarquer après son la beauté, quelque chose qu'on cache, hein, qu'on dissimule, et pourtant en dépit d'une sorte d'uniforme puritain dans les robes, les bonnets, etc., qui pourtant elle se fait remarquer et qui est la fameuse, la grande Elizabeth Woods. Elizabeth Woods, son nom. Et Elisabeth va épouser ce marchand, elle va avoir des enfants, et elle va commencer à leur raconter des récits inventés pour les bercer, pour les endormir, etc. Et son mari, qui trouve qu'elle a du talent, qu'elle sait raconter des histoires, alors on ne sait pas si c'est elle ou si c'est lui qui a écrit les contes, mais toujours est-il que les contes de Ma Merlois, de Tales of Mother Goose, vont paraître et vont être à l'origine donc d'une grande part de l'imaginaire américain. Alors, petite pause qui est intéressante, c'est que quid de nos contes de Ma Merlois, de Charles Perrault, ben, ça n'a rien à voir, c'est ça qui est possible. C'est incroyable. Les contes de Ma Merlois de Charles Perrault sont traduits en Amérique un peu plus tard, à peine, mais ça n'a rien à voir. C'est une pure coïncidence. Alors, Ma Merlois, il y a des tas d'origines, je crois des Français, hein, de Ma Merlois, des tas de possibilités. Est-ce que c'est Ma Merlois, Ma mère entendue? Ce serait oui, Ma mère entendue. Est-ce que c'est Lois, l'animal? Est-ce que c'est, comme il était d'usage en Angleterre, par exemple, les matrones, les maîtresses de bordel, c'était appelé ma mère quelque chose. Par exemple, on voit ça dans les peintures de Hogarth, etc. Ma mère quelque chose, en général une prostituée. Donc, en fait, l'étymologie est très flottante. Mais toujours est-il qu'il existe une Elisabeth Woods, qui est authentique et qui est à l'origine des contes de ma mère.
Bon, vous voulez appeler en américain?
Pardon?
Vous voulez appeler en américain?
Les
contes de ma mère, c'est pas la
peine. Tales of Mother Goose.
Ah oui.
Donc les contes de ma mère. Ah ouais. C'est étonnant. Ah ouais. Mais ça n'a aucun rapport avec les contes de ma mère. Ouais. C'est une curiosité. Des questions pour l'instant ou... Si on a le temps, je vous raconterai la signification des M&M's. C'est important. Ça en fait partie. Bon, bref, s'installe cet imaginaire. Alors, les lecteurs de Stephen King, là, sont très connus. Vous avez déjà remarqué des tas de choses, le maïs, etc. Donc, on pourrait parler du clown. Vous savez que le clown est amérindien, hein, l'origine du clown. Voilà, bon, et je fais un bond parce que par ma seule faute, je n'ai pas du temps, et donc j'arrive à la fin du 19e siècle à Coney Island, on retourne sur Coney Island, avec la création d'un parc d'attractions, enfin de plusieurs parcs d'attractions, qui pour moi sont le laboratoire du 20e siècle, qui sont. Un véritable terrain d'expérience pour la modernité. Alors, petit retour en arrière. Qu'est-ce qu'il y a à Coney Island avant que s'installent les parcs d'attractions? Il y a des gangs, les fameux gangs de New York, qui soit se massacrent entre eux dans ce qu'on appelle le Bowery, soit qui se trouve sur Coney Island, qui est une sorte de terre neutre, de terrain neutre, où on va s'amuser, où il y a des mélanges très étonnants, des espèces de proto-jazz, vous voyez, il y a des danses africaines mêlées de gigues irlandaises, vous imaginez, qui ne donneront lieu à rien. Il n'y aura pas de grand courant musical, mais ce sont des bizarreries, vous voyez. Coney Island est une sorte de zone de non-droit à côté de New York, où il y a les fameux Dead Rabbits, un des plus grands gangs de New York, les Swamp Angels, les anges de la vie, les anges du marais, sont un autre grand gang. Et c'est sur Coney Island que le gouverneur de l'État, Reynolds, et un grand impresario de foire qui s'appelle Samuel Gumpert vont décider d'installer un point d'attraction. Alors, ils obtiennent le terrain pour ne voir rien, un peu de pot de vin, etc. Mais bon, l'affaire est réglée plus en mille. Et il va y avoir cette idée qui en soi est très efficace, hein, mais moralement, disons, un peu discutable, de laver, même pas quasi judiciaire, mais de revirginiser tous les membres des gangs de New York, enfin la police de l'île. Mmh. Autrement dit, c'est. Je vous rappelle que Coney Island, c'est Marriott, hein, le lieu sans ombre. C'est génial. T'imaginer qu'on se croirait dans un roman fantastique. D'habitude, les maisons montées, c'est toujours dans un cimetière indien. Là, Coney Island a été bâti sur l'enfer iroquois. C'est quand même génial. Bon, bref, Gumpert et le gouverneur Reynolds remettent les pendules à l'heure avec les gangs de New York. Donc, en gros, ils leur offrent des barreaux de marine, une casquette bleue et une matraque. Et là, mais c'est authentique, hein, la police va nettoyer Coney Island, c'est-à-dire va frapper, va battre à mort les clochards, vont s'amuser. Ce qui est très étonnant, parce que ça répond à un ancien rite celte. Vont s'amuser à enflammer des clochards pour le voir courir dans la nuit sur l'île, une sorte de reprise de, comment il s'appelle, l'homme de paille, quelque chose, le rituel de l'homme de paille, ce que, on appelle ça en pratique de fin d'après-midi. L'homme de paille, alors, rite celte qui consiste à construire un géant en osier avec de la tourbe, on remplit avec des êtres vivants, on met le feu. Critiqué par les Celtes primitifs, et je pense que même il y a un rapport là, ce serait à creuser. Bon, bref, on nettoie l'île de façon abominable et on va créer les parcs d'attraction. Alors, le premier parc d'attraction ne fonctionne pas des masses, comme c'est le. Le Steeplechase. Le Steeplechase est. Et pas vraiment passionnant. Bon, il enregistre beaucoup d'entrées, mais on tourne très vite court parce que, en gros, c'est des courses de chevaux mécaniques, mais des courses de chevaux quand même, donc quand même bien passionnant. Et donc, comme par hasard, le Steeplechase va brûler. Incendie, il y a beaucoup d'incendies sur Coney Island, hein, avec des compagnies d'assurance. Le Steeplechase va brûler et les mêmes Gumpert et Reynolds, avec l'argent des assurances, vont créer Dreamland. Et là, la fin prend un tour autrement plus intéressant. Dreamland va être construit comme une authentique ville qui est une expérience de tous les sens, de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'imagination, etc. Avec une idée qui est une incroyable modernité qui est de ne mettre aucune couleur dans Dreamland. La ville est intégralement blanche, de manière à ce que les gens, c'est incroyable de modernité, de manière à ce que les gens projettent eux-mêmes par leur imagination les couleurs, les formes, les envies, et ça marche. C'est-à-dire que on a, si j'ai le temps, je vous raconterai la visite de Freud à Coney Island, à Dreamland, vaut le tour. Il en est revenu physiquement malade. Et Jung, qui l'accompagnait, a passé un très bon moment. c'est rigolo. Donc, une ville intégralement blanche dans laquelle on projetait ses propres couleurs, etc. Donc, on y construit les grands lieux du monde entier. Donc, vous avez l'explosion du Vésuve trois fois par jour, l'enfer, vous visitez l'enfer. On peut visiter le commencement du monde, avec une attraction qui devait valoir le détour, une espèce de mini apocalypse nord, puisque on était en bateau et on remontait jusqu'au début du monde. Cela dans une énorme sphère qui avait été construite. Bon, quantité d'attractions, tous les noms de rues sont très réfléchis, ce sont des noms de friandises ou des noms qui font rêver, etc. Et surtout, dans Dreamland, est créé Lilliputien. Alors, Lilliputien, c'est une sorte d'expérience ultime, et c'est en ce sens-là que je dis que c'est probablement un laboratoire pour le XXe siècle. Lilliputien représente la ville de Nuremberg, mais dans son état médiéval. Donc, ils reconstruisent un mini Nuremberg à la taille de Lilliputien, c'est-à-dire de nains aux proportions parfaites. Et s'entame une traque à travers le monde et notamment en Europe de l'Est pour trouver le plus de nains parfaits. Donc il y a des espèces de chasseurs de primes qui, selon des moyens plus ou moins légaux, prennent des nains et les envoient par bateau sur Coney Island. Sur le bateau, ils apprennent de manière intensive l'anglais. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, on leur dit, c'est bizarre parce que c'est à la fois un mélange de contrat professionnel et de rêve identitaire américain, on leur dit que dorénavant ils sont citoyens de Lilliputia. Pas d'Amérique, Lilliputia. Donc, ils ont un tribunal composé toujours de nains parfaits. Ils ont des commerces, des maisons, ils habitent tous dans des maisons faites à l'échelle, avec notamment les premiers drugstores, les premiers drugstores qu'on appelle des mini-drugstores. Donc on teste des choses dans cette petite ville, et fait incroyable, ils ont une compagnie de pompiers qui éteignent toutes les heures un vrai incendie. C'est dingue. Il y a des photos, hein, vous les trouvez. Une compagnie de. Et donc, en plus de ça, imaginez que bon, c'est un succès, mais colossal. En plus, les gens les touchent, les attrapent. Les gens n'ont pas conscience qu'ils ont affaire à l'humanité, à eux-mêmes. Donc, on les pince, on les déshabille. Etc. Les numéros ne sont absolument pas contrôlés, tellement enfin, les gens ont une maison coupée vivante. Voilà. Mais les Gunport vont avoir l'impression que le rythme baisse et donc il va imposer deux choses aux Lilliputiens. D'une part, la cocaïne. Donc ils sont sommés de prendre de la cocaïne. Il faut relativiser, c'est vrai qu'à l'époque, le discours sur la cocaïne n'est pas le même. On considère que la cocaïne est un tonique. On commence à mesurer les effets d'accoutumance, mais on n'en a pas encore l'image qu'on en a aujourd'hui. Enfin bref, ils sont tous sous coke quand même. On les oblige aussi à avoir des comportements homosexuels parce que ça fait rire les gens. Voilà. Ça sera surtout aux hommes. C'est amusant. Donc imaginez si on met bout à bout ce qu'est la vie d'un être humain qui appartient à la compagnie des pompiers lilliputiens, qui donc est continuellement sous cocaïne en train d'affronter toutes les heures un incendie. Alors bien sûr, les incendies sont maîtrisés, mais une flamme, c'est une flamme. Hein. Vous finissez, vous tombez, vous êtes brûlé. Hein, ouais. Donc, ce cocaïne a affronté un incendie de 13 heures, et en ayant une virilité de groupe forcée dans la compagnie des pompiers. Bon. Et tout ça, bien sûr, bon enfant, les gens. C'est un succès énorme, hein. C'est-à-dire que tous les week-ends, les gens affluent par dizaines de mille. Hein. C'est-à-dire que le nombre de visiteurs de Lucia est littéralement monstrueux à la fin de l'année. Et puis en plus, c'est une sorte de décompression, c'est-à-dire que toute la semaine, les secrétaires, les courtiers, etc., ont une vie très réglée dans un Manhattan qui est déjà très moderne hein, pour l'époque, et c'est clairement le défouloir. On pourrait passer des heures, mais par exemple, dans, je reviens à Greenland, vous avez une espèce de soufflerie qui fait que les jupes des femmes s'élèvent, qu'on est plaqué. Tous pêle-mêle sur la paroi de la soufflerie, donc hommes et femmes se confondent, etc. Donc il y a une sexualité plus ou moins sous-jacente, ou dans tous les cas présente. Bon. Donc, le steeplechase, Dreamland, dans Dreamland, Lucia, réaction tribunal, il y a des, il y a des pauvres. Bah oui, dans une ville, il y a toujours des pauvres. Donc, il y a une partie des Lilliputiens qui sont désignés comme pauvres de la ville. Donc, vous arrivez d'Europe, et là, on vous décrète pauvres. Ce sont les pauvres de la ville. Pas de bol, quand même, certains. Bon, c'est le karma. Hein. Voilà. Et bon, c'est un énorme succès, mais c'est considérable. Hein. New Jack City, un développement de Lilliputiens. 250 000 visiteurs par jour pendant l'été. Et de toute façon, là je fais un aparté, mais comment ça s'appelle ? Vous avez vu Requiem for a Dream ? Dream ? Bon, c'est quand on connaît, ça se passe à Coney Island. Une grande part du film se passe à Coney Island. Il y a de la dope, de la prostitution, de la violence et des foires. Les attractions de foire. Et quand vous allez à New York de nos jours, Coney Island, depuis cette époque, a gardé cette espèce d'attirance-répulsion entre les désirs malsains mais si séduisants et la condamnation morale. C'est toujours de nos jours ce qu'on voit Coney Island. Enfin, la réalité, bon. Donc voilà, et en 1908 est créée une nouvelle aile de Dreamland. Il va s'appeler le Luna Park, qui va avoir une fortune internationale, puisque dans n'importe quelle petite foire de province, il y a un Luna Park. Mais le Luna Park d'origine est quand même assez impressionnant. Alors, l'idée dans le Luna Park, c'est de créer une cité sélénite, une cité des habitants de la Lune. Donc, sont engagés des frais colossaux pour la création du Luna Park, avec notamment la création d'une cité, cette fois-ci à proportion normale, entre guillemets, d'inspiration vaguement orientale, avec des dômes, des minarets, etc., intégralement blanche, avec un éclairage électrique fourni par Edison, qui est partenaire à plein temps de... D'ailleurs, vous trouverez sur YouTube l'exécution par électricité de l'éléphant Topsy. C'est bizarre, c'était filmé, c'est la firme Edison. Je crois que l'éléphant, c'est strictement contemporain. Le malheureux éléphant Topsy avait dû bousculer un visiteur, ça avait dégénéré. Et comme il fallait se débarrasser de l'éléphant, ils ont décidé d'en faire une attraction. Et donc, c'est une sorte de snuff éléphantesque. On voit, vous pouvez tomber dessus, un éléphant qui est électrocuté, mais visiblement, les ingénieurs d'Edison ne connaissent pas trop les dosages. Donc, c'est une boucherie, malheureusement aussi, personne ne tombe dessus, puis enfin, ils finissent par le tuer. C'est Edison au Luna Park. Alors, donc, construction du Luna Park, et là, la ville est habité à plein temps par des comédiens. Alors, tous les comédiens sont pris pour leur beauté, hommes et femmes. Ils sont tous grands, ils sont tous beaux, ils sont tout s'habiller en blanc par un grand créateur de vêtements de sport américain de l'époque. Et pour accéder au Luna Park, il faut rentrer dans une roquette, une fusée, qui fait que la fusée est sur pied amovible, elle se déplace sur des vérins et elle est allée dans le décor. C'est très moderne, hein, c'est par fournée de 12, vous voyez, 12 visiteurs environ, on dans la fusée se déplace, on passe au-dessus de Dreamland et on arrive dans le Luna Park. Bon. Et pendant qu'on attend que la fusée revienne, on explique aux gens que ce qu'ils vont voir, une volonté pédagogique, est authentique, qu'il y a vraiment une population sur la Lune, et qu'il y avait un roi, le roi des Sélénites, qui était mélancolique, qui était en train de mourir. Et donc, les Sélénites sont allés au Texas, et ils ont volé un cirque, avec des bisons, etc., pour l'amener sur la Lune. Et ça leur a tellement plu, ça a fait tellement rire le roi, que le roi a vécu encore quelques années et qu'il est mort de sa belle mort, et que donc quand il est mort, tous les habitants, les lunaires, voilà, tous les habitants de la Lune sont morts petit à petit, et que donc c'est le cirque du Texas qui est devenu les actuels habitants de la Lune. Ce qui est fantastique, c'est que, évidemment, rien n'est vrai, mais il y a une volonté pédagogique, il y a un souci de détail pour raconter quelque chose qu'on va voir. Et la magie opère. C'est ça qui est fascinant, c'est que les gens vont dans le Luna Park et manifestent des comportements respectueux devant ces êtres beaux qui sont habillés en blanc, une sorte de détachement condescendant, de politesse vaguement hautaine à l'égard des visiteurs. Et la magie opère, la magie prend, et il est très possible, très probable même, que les arcs électriques du Luna Park, la fusée, la roquette, en plus, on peut passer des heures, mais la roquette a un numéro, c'est le numéro 4, ce qui est très habile, très malin, parce que ça veut donc dire que ce qui est visité est déjà vieux. C'est déjà ancien, c'est déjà une habitude, vous voyez, on est déjà au quatrième module, donc on connaît quoi, les voyages sur la Lune. C'est très malin, psychologiquement, c'est très fort, mais c'est pas un modèle, c'est déjà le 4, etc. Par exemple, le pilote du module est une femme, mais elle est brune, elle n'est pas blonde. Elle attend et la question arrive évidemment, on va commencer à se dire pilote, etc. Et elle explique que comme elle a beaucoup trop de marques physiques terriennes et pas lunaires, mais elle n'est que pilote, parce qu'elle est brune. Vous voyez, Nuremberg pour la petite ville, cette race condescendante des lunaires. Un camp d'attraction où on met des nains, on consomme de ce bourré de cocaïne, etc. Et c'est très étrange que les mécanismes qui conduisent au rire sont, quand on les dissèque un peu, les mêmes mécanismes qui conduisent à la tragédie quelques 30 ou 40 ans plus tard. Ils sont exactement les mêmes. Oui, petite parenthèse sur. Sur Freud, en 1909, Freud arrive aux États-Unis avec Jung, Freud et Jung. Et comme il faut l'occuper pendant une semaine, puisque les conférences qu'il va faire dans Massachusetts sont lieu une semaine après, il y a un bel esprit qui décide de l'amener à Coney Island et à Dreamland. Et Freud, en une journée, a fait Dreamland intégralement et Lilliputia. Et on sait qu'il a très mal vécu. Alors que Jung a adoré le symbole, etc. Jung a adoré. Et Freud l'a très mal vécu. Il a écrit, c'est ça qui est génial, dans ses carnets personnels, il a noté ce qui le glorifiait dans l'expérience, c'est d'avoir une espèce de plongée dans l'inconscient. Freud a eu l'impression d'avoir passé une journée, vous voyez, dans l'inconscient, dans la débauche de désir, de vice, de couleur, d'abrogation de la loi, etc. Et il a noté ça. De la même manière, il a vu un film, ce genre, mais il était physiquement malade, hein, il a vomi, c'est pas vrai, et il a notamment vu un film, et ça a fini par l'achever, le film. Non pas l'histoire, on ne sait même pas ce qu'il y avait dans le film, mais le procédé même d'un défilé à grande vitesse d'images. Et Freud a ses notes qui sont passionnantes, qui dit, mais c'est un rêve. On a mécanisé un rêve. On a sorti le rêve de l'esprit pour en faire un divertissement public. Bon, visiblement, c'est une aujourd'hui pour Freud. Voilà. Bon, donc, je suis désolé de devoir faire des coupes. Bon. Pardon ? Oui, hein, on va faire des notes. Bon, c'est pour en arriver là. Hein, la BNM, c'est pas forcé comme analogie, ça appartient à cet imaginaire américain. Alors, les MNM, dans leur première version, sont créés en 1940 par deux gentlemen qui s'appellent Mars et Maurice, l'un des deux créants du chocolat Mars. Hein, des gens qui dans la chocolaterie. Les M&M's, ils ont été créés suite à une première friandise qui a été proposée lors de l'exposition universelle de Chicago, qui avait eu beaucoup de succès, c'était les Cracker Jack, parce qu'il y a eu cette idée brillante qui était de mettre dans les Cracker Jack une surprise dans le paquet. C'était une petite ritournelle, un petit pote qui disait en gros que c'était du bonheur pour toute la journée. Bon. Et donc les M&M's ont développé l'idée d'une friandise qui ait du sens. Et la légende urbaine qui veut que chaque M&M's ait du sens a été créée en fait par la FIA. Alors on y va. Je les ai en anglais et je les ai en français. On n'a pas parlé de Sarah Winchester et ses maisons pour les fantômes, c'est dommage. La veuve de Winchester qui avait construit une maison pour accueillir toutes les victimes des fusils Winchester. c'est dommage parce que ça, c'est grand. C'est dommage parce que je ne les ai pas imprimés, donc j'ai que les symboles, j'ai oublié de... Bon, par exemple, le rouge, ça vaut pour amour mort. Le symbole, c'est « si ta passion s'en est allée, le rouge tiendra lieu de baiser ». Le rouge donne le cancer, de la même rouge. Soit c'est un amour fini, soit c'est le cancer. Mais si le dernier M&M sur papier est rouge, ça annule le risque. C'est super foncé, il y a quand même une volonté d'organiser tout ça. Hein. Le M&M orange porte chance. Le M&M marron porte poisse. Le bleu ne signifie rien du tout simplement parce qu'il a été créé plus tard. Le gag était fini, donc le bleu ça signifie rien. Le vert rend méchant. Mais c'est dommage, je n'ai pas les poèmes que je vous aurais voulu, parce que c'est un régal. Hein. C'est une petite ritournelle, une petite comptine. Chaque M&M, c'est sa petite comptine. Le vert est aphrodisiaque, pour bien le savoir. Voilà.
Les gens
connaissaient le sens. Non, mais c'est un problème. C'est ça qui est très fort, c'est qu'à l'époque, on a fait une stratégie publicitaire qui suit ça qu'on retrouve maintenant. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu un concept album qui a été lancé sur site internet en abandonnant une clé USB dans les toilettes d'une salle de concert pour le jouer. Quelqu'un est allé aux toilettes, a trouvé la clé USB, a vu ce qu'il y avait dedans, forcément, le message intéressant sur internet. Pareil, un t-shirt par exemple avec des défauts d'impression. Il y a un geek qui forcément a remarqué que les lettres, si on les résume, les formes à un mot, il a rentré le mot sur internet, il est venu à un site, etc. Ben, même s'ils ont fait pareil, ils ont engagé des gens pour aller dans des endroits, dire ce que ça signifiait. Vous voyez, un comptoir de bar, sortir négligemment des M&M's, etc. Et c'est-à-dire qu'il y a eu une diffusion intentionnelle de la légende urbaine des M&M's par M&M's.
C'était
dès
la création.
Oui, c'est leur création.
Mais c'est dès l'invention des M&M's.
Oui, très rapidement. Ben, très rapidement, puisque d'ailleurs, certains voulaient. On sent la valeur symbolique de l'époque qui est assez beaucoup d'invités. Par exemple, je ne sais plus lequel, mais si vous en prenez trop, vous pouvez donner une sexuelle. On sent que quand même, il y a des thèmes de l'époque. Vous voyez ? C'est intéressant. Ça sent quand même que ce sont datés. Vous voyez, vous êtes Marine Saokinawa, faites gaffe avec les MMM. Les Marines, c'est parce que Mars et Maurice étaient fournisseurs des soldats. Hein.
Oui, c'est vraiment parce que le papa-là, vous disiez que les chiens, il y a deux champs, il y a un coup de bois, il y a alors que, effectivement, les gens sont
un peu oubliés. Parce qu'on est à une époque où je regardais l'aurore de Turing dans un état, l'homosexualité. Il est très mal vécu, il est en 1920, Turing est mort, dans les décisions intimes, ignobles de justice, de vouloir le faire soigner de son homosexualité. Ces ennuis, en plus, ont perdu la révolution informatique. Si Turing avait vécu en Angleterre, Silicon Valley était dans la soirée, dans le bien. Ça fait partie des. Bon, en France, c'était pareil. L'élément homosexuel dans l'affaire Dreyfus est mis à charge, comme les légations d'ambassades allemandes et italiennes, comme les attachés culturels traduisaient les esprits italiens et allemands notamment, c'est un déni pour l'accusation de Dreyfus, juif, un mélange de juif et d'homosexualité, c'est parfait. On est là dans la volonté de marginaliser, dans la
main. Le machin qui a aussi appelé là.
Mais c'est dommage que. Mais c'est ma faute, je vous en prie. Mais on va plus parler de la baleine, la le conjuste, de la maison de Sarah Winchester, qui est reconnue des loges pour continuer. Sarah Winchester, en quelques mots. Veuve. Non, épouse du fils Winchester, c'est-à-dire le fils du créateur. Le créateur, un homme self-made man, plein de mérite, mais brut, mais qui veut la meilleure éducation pour son fils. Son fils épouse une certaine Sarah, qui est une beauté minuscule, elle mesure 1m40, qui est surnommée Midget. Et ils vont être très amoureux, le fils Winchester et Sarah, et ils vont avoir un bébé, une petite fille, qui va mourir très vite de fièvre, et ça va les dévaster. Et deuxième passage, le mari de Sarah va mourir d'une fièvre pulmonaire, et là elle va devenir folle. Elle va être une femme de Pierre Winchester. Elle va être internée pendant 4 ans. À bout de 4 ans, elle sort de l'asile. Et pour vous donner une idée, elle a comme revenu personnel quotidien $50,000 de l'époque. Quotidien, j'insiste. Elle sort de l'asile. Elle a une des premières automobiles d'Amérique, elle a un serviteur japonais, et elle prévient la firme Winchester qu'elle les laisse faire, parce que la laïque mission est de construire une maison pour accueillir toutes les victimes des Caroline Winchester.
Et puis il y a comme les
Indiens, les bisons, les oiseaux, etc. Et parce que voilà, parce que en fait, pendant les 4 ans, son mari est mort, est revenu du royaume des morts à la limite, on peut lui parler, mais il ne peut pas la rejoindre, parce qu'il cherche leur fille. C'est magnifique, c'est vrai, hein, son délire est vrai. Ils cherchent leur fille et il a appris de la communauté des morts qu'ils ne retrouveront leur fille que s'ils construisent cette maison. Et donc, Sarah part en Californie, trouve un terrain, commence à construire sa maison. La maison va être construite pendant 30 ans sans interruption, sauf une fois, sans interruption. Et donc, tous les soirs, à minuit, elle a 3 horloges qui sont réglées par une domestique japonaise qui indiquent minuit pile, heure où elle rencontre la communauté des morts, qui vont lui donner des instructions architecturales. Et la maison est faite pour accueillir tout type de fantômes. Par exemple, elle commande à Tiffany, New York, une énorme loupe en cristal biseauté qui est posée sur le sol de manière à grossir les bébés fantômes qui n'ont pas la capacité éthérique de passer d'un étage à l'autre. Mais ce qui est impressionnant, parce que là on peut en aligner hein, avec ça, mais il crée toujours une garderie pour bébés fantômes. Il y a peu, elle a espéré un jour sa fille, elle viendra, il y a une salle de bal aux proportions d'une authentique salle de bal, hein, pour le premier bal de sa fille, où elle espère être là, c'est très touchant, les citations de Shakespeare, tirées de Roméo et Juliette, etc. Sarah invente le motif Tiffany, le motif araignée de chez Tiffany, c'est un précis que.
Je peux finir tranquillement. Il y a Roland derrière qui.
Ah, bah, on va laisser alors s'il y a Roland. Oui. Enfin, voilà, en tout cas, pour vous dire que. Oui, alors elle a été en partie détruite par le fondateur de San Francisco. Elle a pensé que c'était une décision de fantôme. Elle a vécu pendant 4 ans par la suite sur une péniche, sur de l'eau vive, pour ne pas être. Frappée par les fantômes, elle est revenue. Elle n'a pas dormi une seule fois dans la même chambre pendant toute sa résidence dans Lambda Villa, la ville à Lambda. Très belle histoire. Bah, elle était énorme, mais il en reste quand même encore beaucoup. Theodore Roosevelt, le président, se pointe à Pierre Winchester pour réclamer de l'argent. Théodore Roosevelt est surnommé le Teddy le grand chasseur. C'est de lui qu'on a le Teddy Bear, mais pas parce que c'était mignon, parce qu'il butait des ours. Hein. Et c'est authentique. Enfin, on imagine, elle s'est pointée, elle était déjà âgée, elle avait son serviteur japonais à côté d'elle, elle était assise sur une chaise roulante parce que fatiguée, et elle avait en travers de ses genoux. La Winchester 1860, le premier modèle, en disant tu fais un peu plus sèche que tu. C'est beau, c'est magnifique. Teddy, tu fais un peu plus sèche que tu. T'imagines, James West devait probablement faire partie des services secrets, un peu nerveux sur ce coup-là. Mais c'est touchant. Voilà, il y aura plein de choses à voir. Par exemple, la création des services secrets américains, justement, est uniquement par les illusionnistes. Si vous prenez les cadres fondateurs des services secrets américains, ce sont tous des magiciens. Parce que tout simplement, il fallait apprendre aux gens à tricher pour gagner sur le terrain de l'argent ou perdre, pour mettre en confiance, pour faire sauter les serrures, se délier, etc. Voilà, ben, je vous remercie de...